Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Tenida, page 49, Daf Mem Tet. Bonne écoute et bon limoud.
Et nous avons une deuxième réponse possible. Ibaïtem Arabi Shimon. Si tu veux, je peux dire que cette affirmation que les femmes ne sont fiables que pour une Khumra et pas pour une Kula, elle concerne Rabbi Shimon ou la Khara Perek, et il s'agit d'un examen qui a été fait après la période. Ah, comment se fait-il que nous avons fait cet examen? L'Agma répond, l'et le chazaka de Rava. Il faut dire dans ce cas-là que Rabbi Shimon ne pense pas que la statistique dont Rava faisait état permet d'affirmer qu'il y a une quasi-certitude que ces poils devraient être là. L'Agmara cite la suite de la Mishnah. Nipnei Shamru Efshar, parce que les Chachamim ont dit, il est possible que le signe inférieur vienne avant le supérieur, mais non l'inverse. L'Agmara demande, ha, tout l'amali, cette répétition apparente, ce passage supplémentaire, à quoi me sert-il? Ha, tana, le, resha. Pourtant la Mishnah a déjà enseigné au début. Vechitema, mishum de kaba, elemistema, karabanan. Et si tu vas répondre que cette préoccupation, c'est-à-dire cette expression, elle est due à la préoccupation de la Mishnah de terminer en disant que la Mishnah est d'accord avec les Chachamim, Pshita, une telle chose est évidente. Yachid Rabin, si nous avons une discussion entre un individu isolé, un Chacham isolé, Rabbi Meir en l'occurrence, le Rabim et la majorité des Chachamim, Al Chak Rabim, la Lacha suit la majorité. Agma répond, Maoud et Tema, tu aurais pensé malgré tout qu'on ne suit pas les Chachamim ici. Pourquoi? Mistab Rataman Rabbi Meir. La position de Rabbi Meir est logique, de Kam Esayel et Krae, puisque les versets que nous avons cités, extraits de Yecheskel, semblaient être en accord avec lui et dire que le développement de la poitrine se fait avant le développement du bas-ventre. Kamash Malan, c'est pourquoi la Mishnah a voulu nous faire savoir qu'elle est de l'opinion des Chachamim. Et si tu veux, je peux te donner une autre réponse. Mishum de Kaba Elemitne Kayotsebo. C'est parce que la Mishnah voulait utiliser pour introduire ce qui suit dans les Mishnayot l'expression Kayotsebo de la même manière. En fait, on va voir une liste de cas qui n'ont pas de rapport direct avec le sujet principal de la Maseret Nida, si ce n'est le fait que l'on va avoir des choses où une condition peut exister, une condition A peut exister sans la condition B, mais la condition B ne peut pas exister sans la condition A. Et en fait, cela revient à dire aussi que dans notre Mishnah, on répète le fait qu'une fillette peut avoir le signe de puberté inférieur sans le signe de puberté supérieur, mais que l'inverse n'est pas possible. Nous abordons donc cette Mishnah, justement, qui commence par les mots Kayotsebo, de la même manière. On va d'abord parler de la capacité qu'a un ustensile en terre cuite à servir pour ce qu'on appelle Mechatat, c'est-à-dire puiser l'eau vive qui est nécessaire pour mélanger avec la cendre de la vache rousse. Et on dit la chose suivante, Kolkli, Cheres et Umarnis, tout ustensile en terre cuite qui a un trou suffisamment grand pour que l'eau y pénètre, ainsi dit, on le met dans un récipient rempli d'eau et l'eau y pénètre par le bas, par ce trou, Motsi, il est certain qu'il va laisser également l'eau s'échapper. Yesh et Motsi veno Marnis. Mais il peut y avoir un ustensile qui a un trou plus petit, dont l'eau s'échappe, mais où l'eau ne rentre pas. Alors, le deuxième type d'ustensile, celui qui a un trou qui est tellement petit que l'eau s'en échappe mais ne peut pas y rentrer, il est encore considéré comme intact et on peut l'utiliser pour pour puiser l'eau de Mayim Chayim Mechatat. Tandis que celui qui a un trou qui laisse échapper l'eau n'est plus apte à cela. Deuxième cas, il s'agit cette fois-ci d'un membre supplémentaire d'un cadavre. Un cadavre qui aurait par exemple une main avec 6 doigts. Est-ce que ce doigt, qu'on appellera ici Ever, donc un membre, va avoir à lui tout seul le statut suffisant de partie importante d'un cadavre pour que s'il est placé dans une tente, par exemple, la personne qui s'y trouve soit impure en tant que ayant été dans une tente avec un morceau important de cadavre. Alors, s'agissant d'un doigt supplémentaire, ce n'est que si c'est un doigt qui a un ongle que cela est valable. Et c'est ce qui va expliquer l'intérêt de ce que nous disons maintenant, que les vers chez Jvotiporen, tout membre, sous-entendu, supplémentaire, un 6e doigt par exemple, s'il comporte un ongle, Yeshboetsem, on est certain qu'il y a également un os, et dans ce cas-là, il est considéré comme important, ceci a pour conséquence, dans la halakha des Ohalim, c'est-à-dire de la transmission de la Touma par les tentes par exemple, qu'il rend impur même s'il n'a pas le volume d'un kazaït. Veyesh, mais il peut y avoir un tel doigt supplémentaire chez Esbouetsem qui, bien qu'ayant un os, Ben Botiporen qui n'a pas d'ongle, et dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme ayant une importance de Ever, de membre séparé, lorsqu'il est un membre supplémentaire au-delà des cinq habituels. Et donc à ce moment-là, il ne rendra impur que s'il a le volume de la Kazaït, et pas s'il n'a pas le volume de Kazaït, étant donné qu'il n'y a pas d'ongle. Troisième cas, Kolamitame Midras, tout ustensile qui peut devenir impur au titre de Midras Azav. On sait que Midras Azav, c'est un ustensile qui est destiné soit à s'asseoir dessus, soit à servir de lit. Eh bien, il peut devenir Avatouma également s'il a touché un Tememet, celui qui a été rendu impur par mort, ou bien s'il a été rendu impur dans la même tente que celle où se trouve un mort. Mais par contre, inversement, Veyesh, chez Mitame et Tememet, il peut y avoir un ustensile qui a tous les paramètres d'un ustensile au point de recevoir toutes les Toumotes et de devenir même Avatouma s'il est en contact avec un mort. Mais il ne devient pas Avatouma si le Zav s'est assis dessus ou s'est couché dessus. Et on cite le cas habituel de Koupach El Seor, une espèce de boîte remplie de levain qui a durci et où les gens s'assoivent par soi, mais qui en réalité servent pour le travail des ouvriers. Et lorsque les ouvriers viennent, ils disent à celui qui est assis dessus, lève-toi et laisse-nous faire notre travail. Dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme destiné à s'asseoir dessus, et il ne peut pas avoir la Toumat Midras, bien qu'il reçoit la Toumat Met. C'est ce que dit la fin de la Mishnah, Yesh Shemitamet Tememet, un ustensile peut être susceptible de devenir impur par la Touma transmise par un cadavre, Venomitame Midras, sans devenir automatiquement tamé par le fait d'avoir été foulé, c'est-à-dire d'avoir été le siège ou la literie, le lit de Nazar, par exemple. Nous abordons la Gemara. La Gemara commence par discuter le premier cas de la Mishnah, bien entendu, Mahnis. Et elle nous précise ce qui a été dit dans notre commentaire, c'est que si le trou est suffisant pour laisser entrer l'eau, Fasoul le Mechatat, cet ustensile ne peut plus être utilisé pour puiser l'eau nécessaire pour Mechatat, c'est-à-dire le mélange d'eau et de cendre de la vache rousse qui sert à purifier ceux qui sont Temehem et Tim, impurs par contact avec un cadavre. Ou Pasoul Mishum Gistera. Et également, si un tel trou affecte Gistera, c'est-à-dire un morceau d'ustensile en terre cuite, une brisure d'un ustensile en terre cuite, alors, Motsi, par contre, si le trou est seulement un trou qui laisse s'écouler l'eau, mais qui ne la laisse pas rentrer, c'est-à-dire si l'ustensile est intact, sauf qu'il a un trou qui laisse sortir l'eau, kasher le mechatat. Ce trou n'est pas suffisant pour le rendre inapte, et il reste valable pour puiser mechatat, l'eau de purification. Ou pasoul misum gistera. Mais malgré tout, en tant que brisure d'ustensile, il est non valable. Amar Ravasi. Ravasi, il a dit, Shonin, on enseigne, et il s'agit d'une halakha de Moshe Misinaï, comme le dit Rashi. Klicheres, en ce qui concerne les ustensiles en terre cuite. Shiuro bechones mashke. La mesure du trou qui le priverait de son statut de Keli, à tout point de vue, c'est-à-dire le trou minimal, c'est kones mashke. C'est le fait qu'un tel trou laisserait rentrer de l'eau. Velo amru motsi mashke. Et on a parlé d'un trou qui laisse s'échapper du liquide, sous-entendu sans le laisser entrer. Et là, les inyan qui sera uniquement pour une brisure de kli, mais non pas pour un kli intact. Maïtama, pour quelle raison? Amar morzoutra brezer nachman. Morzoutra, le fils de Rav Nachman, a expliqué cela. Le fichier nomrim avec gistera le gistera. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, je traduis mot à mot et j'expliquerai, on ne dit pas amène une brisure pour contenir l'eau qui est dans un ustensile qui est déjà brisé. Autrement dit, si un ustensile a un tout petit trou, on amènera une brisure en dessous pour recueillir l'eau qui s'en échappe, mais si l'ustensile est déjà brisé, on n'amènera pas une autre brisure en dessous pour recueillir l'eau de la première brisure. Tanou Rabbanan, nos maîtres ont enseigné une braïta. Ketsad Botkin Klicheres. Comment est-ce qu'on vérifie qu'un ustensile en terre cuite a bien le statut d'ustensile? Les daim nika ve konnes maske umlav, et notamment pour savoir est-ce qu'il est ou non susceptible de faire rentrer de l'eau, littéralement un liquide. Yavi Arevam Lehamaim. On amène une grande marmite, une bassine pleine d'eau, Venoten Kdera Lotora, on met le pot de terre cuite à l'intérieur, Im Kansa. Si l'eau est rentrée dans le pot en terre cuite, bien doit se connaître masqué, on sait donc qu'il y a un trou qui a au moins la dimension suffisante pour laisser rentrer de l'eau. Veim Lav. Et si l'eau n'est pas rentrée, mais il y a doit c'est moti masqué. On sait alors que s'il y a un trou, dans le pire des cas, il laisse s'écouler l'eau, mais ne la laisse pas entrer. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui propose une autre façon de vérifier le kli. Et comme l'explique Rashi, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec le Tanakama, parce qu'il pense qu'en rentrant l'ustensile dans la bassine, la pression de l'eau peut faire donner l'impression que l'eau rentre facilement, alors que ce n'est dû qu'à la pression, et ceci peut nous amener à conclure d'une manière qui est trop hâtive, que l'ustensile ne peut plus devenir impur parce qu'il le serait percé de manière à même laisser rentrer de l'eau. Et voici la proposition de Rabbi Yehuda, Kofef Ozneg der Letocha. Il retourne le pot en mettant sa partie supérieure en bas, ou Metzif Aleamaim. Et ensuite il fait couler de l'eau au-dessus du trou. Veim Kones. Et si, de cette manière-là, sans qu'il y ait la moindre pression, l'eau pénètre à l'intérieur de cet ustensile renversé, mais il y a deux, je connais ce masqué. Là, on est sûr que le trou est suffisant pour laisser rentrer du liquide. Mais là, et si l'eau ne rentre pas de cette manière, mais il y a deux, c'est moti masqué. Ce trou ne peut, au pire des cas, qu'être un trou qui laisse échapper le liquide, mais qui ne laisse pas entrer. Rabbi Yehuda propose encore une autre manière de vérifier. O shofta agabe ha'ur. Ou encore, on place l'ustensile en question sur le feu. Imaur ma'amida. C'est-à-dire, on a mis de l'eau dedans. Si le fait que ce soit sur le feu, l'effet du feu, la dilatation faite par le feu retient l'eau, c'est-à-dire que ça ne coule pas, beyadoua shemoti masqué. Il est sûr que, dans le pire des cas, ce trou ne peut que laisser sortir les liquides, ne laisse pas rentrer, puisque le fait de le mettre sur le feu arrête l'écoulement de l'eau. Veim lav, et sinon, c'est-à-dire si malgré le feu, l'eau continue à couler, beyadoua shemartis masqué. On est certain que le trou est suffisamment important pour que non seulement il laisse s'échapper de l'eau, puisque c'est le cas même sur le feu, mais qu'il la laisse même entrer.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous continuons donc l'étude de ce daf, même tête à mout bête. Nous sommes au début donc du sixième chapitre de cette maserhet, le Perek Ba Siman. Daf même tête, nous reprenons en haut de la page, Rabbi Yehuda Omer, Kof Oznek Dera le Tocha ou Matif Ale Amaim. Rabbi Yehuda propose une autre manière de vérifier si un ustensile en terre cuite laisse entrer de l'eau. Il dit, je mets littéralement les poignets de la marmite à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on inverse la marmite, on la met à l'envers, ou matsif aléa maïm, on en verse de l'eau au-dessus, veim kones, et si on constate que cette eau a pénétré à l'intérieur, donc par le fond de la marmite, du côté où le trou sort, mais yadoua se kones masqué. Il est évident que cette marmite, cet ustensile laisse entrer les liquides, veim lave, et sinon, mais yadoua se motsi masqué. Il est clair que le trou en question ne laisse que s'échapper du liquide, mais qui n'est pas suffisamment grand, et donc le keli est encore considéré comme un keli intact. Autre proposition de Rabbi Yehuda pour vérifier. O shofta al gabe ha'ur, ou encore il la pose sur le feu. Imaur ma'amida, si l'effet du feu arrête l'écoulement de l'eau de l'intérieur de la casserole, de la marmite, de l'ustensile, mais à doua chez moti masqué. Il est certain que le trou ne laisse que s'échapper l'eau, mais étant donné que l'effet du feu et de la température empêche l'eau de s'en échapper, il est certain que le trou n'est pas suffisant pour laisser entrer de l'eau. Veim lav, et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si malgré le fait de l'avoir mis sur le feu, l'eau s'écoule, mais à doua chez machnis masqué. On peut affirmer certainement qu'il laissera aussi entrer les liquides. Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi, lui, il dit « Af lo shoftal gabeur, mipne sheaur ma'amida ». Il dit ce deuxième critère de le mettre directement sur le feu, n'est pas bon, Mipne Shaour Mahamida, parce que même si le trou est très grand, l'effet du feu va arrêter l'écoulement de l'eau. Et là, mais, voilà ce que propose Rabbi Yossé, Shofta Agabe Aremetz, on le met sur des braises. Im Remetz Mahamida, si les braises ont un effet tel que l'eau ne s'écoule plus, Beyadoua Shemoti Mashke, il est clair que le seul effet de ce trou est de laisser échapper le liquide, sous-entendu, mais pas de le laisser entrer, donc l'ustensile est considéré comme étant intact. Veim lav, et sinon, c'est-à-dire si l'effet des braises n'empêche pas l'eau de couler, Beyadoua Shekones Mashke, il est certain que le trou est tel qu'il laisse pénétrer les liquides. Maintenant, un autre critère encore. C'est ainsi que le comprend Rashi. Haya Tored Tipa Achar Tipa. Si le trou laisse échapper de l'eau goutte après goutte, c'est-à-dire c'est pas des gouttes très espacées, mais une goutte suit l'autre, mais Adoua Shekones Mashke. Il est certain qu'un tel trou laisse également entrer un liquide. La Gemara demande, Maïka ben Tanakama el Rabbi Yehuda. Quelle différence y a-t-il entre le test proposé par Tanakama et le test proposé par Rabbi Yehuda? Amaroula, Oula a répondu, Kinou Sanede Atrak Ikabenayou. Le statut d'une pénétration d'eau par une pression. C'est ça la différence. D'après Tanakama, puisqu'il dit que l'on met la casserole telle qu'elle avec au fond de l'eau et qu'il y a une pression, il dit que ça s'appelle quand même une admission d'eau, même si c'est dû à une pression. Tandis que d'après Rabbi Yehuda, ça ne s'appelle pas admettre de l'eau lorsque l'eau ne rentre que par l'effet d'une pression. C'est pourquoi il propose des tests ou des examens qui ne font pas intervenir une pression de l'eau par ce trou. Nous abordons dans la Gemara la suite de la Mishnah qui disait que les verches, botiporen, etc. Rappelons que tout le problème posé par le cas de ce doigt supplémentaire est de savoir si, lorsqu'il n'a pas un kazaït de chair, il est considéré comme un ever à part entière qui peut rendre impur. De toute façon, s'il a suffisamment de chair, c'est-à-dire s'il y a le volume d'un olive de Bassar, il n'y a aucun problème pour qu'il rende impur dans toutes les conditions où ce qui émane d'un cadavre rend impur, c'est-à-dire y compris sous une tente. Alors, ici, il s'agit de savoir dans quelles conditions elle sera considérée comme un membre à part entière, ce qui lui donne un statut d'impurification, même s'il n'y a pas le kazaït dans le volume total de ce doigt supplémentaire. Voilà ce que dit donc la Gemara. Yesh botiporen, si il comporte un ongle, mais tamé bemaga ou bemassa ou beoel, il rend impur non seulement par contact et par le fait de le porter, mais également si on est sous la même tente que lui. Par contre, Yeshbo Etsem en Botiporen, si même il y a un os, mais qu'il n'y a pas d'ongle, Metam et Bemagaubemassa, il est vrai qu'il rendra impur par contact et si on le porte, mais non Metam et Beoel, mais il ne rendra pas impur si on n'est dans la même tente que lui. Amar Al-Khizda, la Tura Al-Khizda a précisé, Davar Zerabeno Agadol Amaro. L'enseignement que je vais dire, c'est notre grand maître qui l'a dit. Le grand maître, c'était le Rav de son Rav, c'est-à-dire le Amora, qui s'appelle justement Rav, qui était le maître de Ravuna, lui-même maître de Rav Chizda. Amakom Yebezro, qu'Akadosh Baruch Hu aide notre grand maître, Etzbayetera Shiesbo Etzem. Un doigt supplémentaire qui comporte un os, Ven Botiporen, mais pas d'ongle, mais Tamem Magav Massa, il rend impur par contact et par le fait de le porter. En fait, il suffit pour cela que l'os qui s'y trouve soit plus grand qu'un grain d'avoine, un grain d'orge, mais par contre il ne peut pas rendre impur si on est sous la même tente que lui. Amar Rabba Bar Barachana Amar Rabbi Yochanan, précision supplémentaire apportée par Rabba, le fils de Barachana au nom de Rabbi Yochanan, Ukshenan Ispers al Gavayad, tout ceci, c'est-à-dire cette exigence d'avoir un ongle, c'est uniquement dans le cas où il n'est pas aligné avec les autres doigts de la main. Ce qui implique que s'il est aligné avec les autres doigts de la main, on n'exige pas la présence d'un ongle pour qu'il rende impur, même s'il est seul dans une tente, parce que le fait de l'alignement lui donne le même statut que les autres doigts. La suite de la Mishnah parlait donc de kolamitame midras, tout ce qui peut être tout keli, tout ustensile qui peut être rendu impur par le fait d'être assis dessus ou d'être allongé dessus pour un zav, deviendra également impur par le fait de la tum'at met. L'agma va préciser, kol de chazel midras, tout ustensile pour lequel on puisse transmettre La Touma de Midras, Mitamet et Mehmet, il devient impur également par celui qui a été rendu impur à partir d'un cadavre. Veyesh, Mitamet et Mehmet, il y en a qui peut être rendu impur par celui qui a été rendu impur par un cadavre, Ven, Mitamet, Midras. Mais pour autant, il n'est pas tamé par le Midras. La Gemara s'interroge la Touye Maï. Qu'est-ce que cette deuxième affirmation vient inclure? C'est-à-dire, quel est le cas type? La Touye Seav et Tarkav. Ceci vient inclure des ustensiles qui sont destinés à mesurer les capacités. Seav ou Tarkav sont des capacités de grain. Netanya, en effet, une Braïta nous enseigne. Vayoshev alakeli. La Torah parlait dans le sixième passouk du quinzième chapitre de Vayikra de cette Touma de Midras, celui qui est assis sur un ustensile. Yachol, Kafa, Se'a, Viachavalea. J'aurais pu croire que si un Zav a mis à l'envers un instrument de capacité d'une Se'a, et il s'en sert comme d'un tabouret, Otarkav, ou bien la capacité d'un Tarkav, Viachavala, il est assis dessus. Yetame, que cette chaise improvisée, ce tabouret improvisé, soit impur, Talmud Lomar, le verset précise, Asher Yeshev Alav Azav, sur lequel le Zav s'assoit. Ceci vient impliquer, dit la Gemara, mi shemiyuchad lishiva. Si l'ustensile en question est destiné particulièrement pour s'y asseoir, yatsazé. Ceci vient inclure le cas d'un tel ustensile qui n'est là que pour mesurer les capacités. Shom Rimlo, où on lui dit, c'est-à-dire les gens qui utilisent professionnellement cette capacité, lui diront à ce zav, amod, mets-toi debout, venant assem l'artenu, laisse-nous faire notre travail avec cet ustensile de mesure de capacité. Et donc, un tel ustensile ne sera pas impur par le fait que le Zav se soit assis dessus, parce qu'il n'est pas destiné à cela, alors qu'il deviendra totalement impur s'il est, par exemple, dans la même tente qu'un mort, ou s'il a été touché par un tamemet. Nous avons fini pour cette Mishnah, nous passons à la Mishnah suivante, qui également va mettre toujours en cas des situations où A peut aller avec B, et B peut aller sans A. « Kolaraou iladouni nefashot » Toute personne qui a les aptitudes pour juger des cas où il y a risque de peine de mort, Raoui Ladoun Dinemamonot, il est également apte à être juge pour des affaires qui sont purement d'argent. C'est-à-dire où soit c'est discute d'argent, soit les punitions ne seront que des peines d'argent, mais pas des peines de mort. Veyesh, par contre, il peut y avoir le cas d'une personne chez Raoui Ladoun Dinemamonot, qui est apte à juger dans les cas d'argent. Mais n'est pas apte à être juge pour des cas où il y a une peine de mort, où la vie de la personne peut être mise en cause. La Gemara va se poser la question. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda a répondu, le atouye mamzer. La Mishnah vient inclure le cas d'un mamzer. Sous-entendu, alors le mamzer, celui qui est né des interdictions strictes de Harayot de la Torah, par exemple celui qui est né d'un inceste ou d'un adultère, il est non valable comme juge pour des cas où la peine de mort peut être mise en cause, mais il peut juger dans les cas où il s'agit de questions d'argent. La Gemara s'interroge, Tanina Chadaz Zimna, ceci a déjà été enseigné dans une autre Mishnah. Cette Mishnah vient de la Maseret Sanhedrin, qui traite justement des tribunaux, et à la page Lamed Bet, voilà ce qu'on dit là-bas, Akol Kcherin Ladun Dine Mamonot, Ven Akol Kcherin Ladun Dine Fashot. Tout le monde est valable, est apte à être juge pour des affaires d'argent, mais tout le monde n'est pas apte à être juge pour des cas de peine de mort. Et on s'est interrogé à ce sujet, qui vient inclure dans le cas de tout le monde. Et Rav Yehuda avait dit, la Touye Mamzer, ceci vient inclure le Mamzer. La Gemara répond, Chada le Touye Ger. En vérité, l'une des Mishnayot vient inclure le cas d'un juif d'origine non juive, donc un converti. Chada le Touye Mamzer. Et l'autre Mishnah vient inclure le cas du Mamzer. Tous les deux étant qualifiés pour les cas monétaires, mais ne sont pas qualifiés pour les cas où il y a une peine de mort en risque. Utsriche, et les deux Mishnayot est nécessaire. Deyashmainanger, car si une Mishnah n'était venue nous apprendre que le cas d'un converti, je me serais dit le converti, pourquoi est-ce qu'il est accepté pour juger les cas d'argent? Mishum de Raoui Lavobekahal, parce qu'il est autorisé à rentrer dans l'assemblée juive, c'est-à-dire il peut épouser une juive sans aucune espèce de restriction. Aval Mamzer, tandis que Mamzer d'En Raoui Lavobekahal, qui n'est pas autorisé à épouser n'importe quel juive, il n'a droit d'épouser qu'une Mamzeret. Emma Lo, j'aurais dit qu'il n'est pas apte à être juge dans des affaires financières. Donc, il était nécessaire de dire clairement que le mamzer est apte au jugement des affaires financières. Le Yashmaïnan mamzer ici, la Mishnah ne nous apprenait que le cas du mamzer en nous disant qu'il est autorisé à juger dans les cas d'argent. J'aurais pensé que lui, oui, Mishum de Kaate Mitipa Kshera, parce qu'il provient à l'origine d'une semence d'origine kachère, c'est-à-dire d'un juif, à Valguer, mais le converti, le Kaate Mitipa Psula, qui vient d'une semence qui à l'origine est non valable parce que c'était un idolâtre, Emma, le père était idolâtre, je m'entends bien, Emma, l'eau, j'aurais dit que non. Je dis le père, bien entendu il s'agit aussi de la mère parce que comme on le sait c'est la mère qui décide si l'enfant va être ou non un idolâtre. Donc il vient mais Tipa Psula, le terme de Tipa bien qu'on l'utilise en général pour la semence paternelle est ici à comprendre également ou exclusivement pour la semence maternelle. Donc Emalo, j'aurais pu dire que lui n'est pas apte à juger dans les affaires d'argent. Sikha, donc il était nécessaire d'amener les deux Mishnayot, celle de Sanhedrin et celle de chez nous. Et les deux interventions de Rav Yehuda dessus également. Voici pour cette Mishnah, nous passons à la Mishnah suivante, et nous allons très peu après tourner la page et aborder le Daf Nun 50. Alors, voici ce que dit cette Mishnah, Kola Kacher Ladun, Kacher Laïd. Tout celui qui est apte à être juge est apte à être témoin. Le Yesh, c'est Kacher Laïd, mais quelqu'un peut être apte à témoigner. Mais non Kacher Ladun, sans être autorisé à être juge. La Gemara demande la même question là, tout Yemaï. Qu'est-ce que ceci vient inclure? Amar Rabbi Yochanan a répondu, Léatouye Souma Be'achad Menam. Ceci vient inclure le cas d'un borgne, littéralement celui qui est aveugle de l'un de ses yeux. Bien qu'il puisse servir de témoin, puisqu'il a quand même un œil, cependant il est disqualifié en tant que juge. La Gemara dit, Oumani, et d'après qui cela va-t-il? C'est l'opinion de quel Tana? Nous avons ainsi terminé le DAF même tête.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le DAF Ayomi quotidiennement en vidéo.